Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe lorsqu'une personne transgresse la loi divine. Le roi Salomon a écrit « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais le détour des perfides cause leur ruine. » Les détours, les compromis que les hommes font avec la loi divine, quand ils ne la rejettent pas tout simplement, amènent un salaire qui finit par apporter automatiquement malheur et souffrance. L'apôtre Paul a écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour les hommes. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tout ce qui nous entoure et qui est régi par tant de lois complexes ne peut pas être le résultat du hasard. Et Paul poursuit, ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, l'ayant connu par sa création elle-même, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Que de fois n'entendons-nous pas dire que la nature fait bien les choses. Pourtant, nous entendons rarement une parole de remerciement pour ce grand Créateur qui a fait ces choses merveilleuses que nous découvrons dans la nature. On préfère rendre grâce à une nature créée plutôt qu'à celui qui l'a créée. L'apôtre Paul poursuit en ces termes. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le salaire des égarements décrit dans ce passage est automatique. Il fait partie des lois que Dieu a établies pour le bien de l'humanité. La perversion amène automatiquement une pénalité. Elle n'est pas mauvaise uniquement parce que Dieu aurait décidé arbitrairement qu'elle serait mauvaise. Non, elle est mauvaise parce qu'elle fait du tort à l'homme. Elle le blesse, elle lui est nuisible. En fait, ces égarements, pour ne reprendre que cet exemple donné par l'apôtre Paul, provoquent un dommage à la possibilité de vivre une bonne vie de famille, qui est d'engendrer et d'élever des enfants avec une bonne relation entre parents et enfants, comme cela a été prévu de l'origine. En parlant des gens qui sont guidés par leur nature charnelle, qui se laissent entraîner par elle, l'apôtre Paul déclare « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, c'est-à-dire au vice, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ces gens, à cause de leurs pratiques perverses, se sont rendus incapables d'avoir de bons sentiments équilibrés. Il ne s'agit pas d'un code de morale arbitraire édicté par Dieu, mais il s'agit d'une loi vivante que l'on ne peut transgresser sans en payer une pénalité parfois très lourde. Ces personnes suivent un mode de vie, une existence qui entrave, qui appesantit graduellement leurs capacités. Alors, revenons à notre question initiale. Pourquoi l'adultère est-il péché? Parce qu'à la longue, il finit par détériorer l'esprit de celui qui le commet. Qu'il le commette selon la lettre ou selon l'esprit de la loi, peu importe. L'esprit de l'homme est l'instrument le plus précis, le plus délicat qui existe. L'adultère empêche l'individu qui le commet de jouir, de profiter de la sexualité de la manière prévue par Dieu. En d'autres termes, la relation entre mari et femme s'émousse. L'épouse et l'époux finissent par ne plus être aussi séduisants. Ils finissent par ne plus être aussi attirants qu'ils l'étaient. Mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. L'adultère semble très attirant. Mais plus cette expérience illicite se poursuit, plus elle finit à la longue par détruire la capacité d'apprécier la vie de couple. C'est une voie, un chemin qui conduit en fin de compte vers la frustration, le chagrin et la mort. Le péché, quel qu'il soit, est-il agréable? Bien sûr que oui. C'est la raison pour laquelle le monde s'y engage. Voilà pourquoi la tentation est si attrayante. L'adultère, qu'il soit physique ou mental, est plaisant. Celui qui consomme de la drogue en tire du plaisir. Le fruit défendu, que prirent Adam et Ève, leur sembla tout d'abord agréable à la vue, et ensuite, il leur sembla bon. Personne ne peut nier la jouissance du péché. Lisons ce que l'apôtre Paul a écrit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mais nous devons comprendre que le plaisir si court, si bref en fin de compte, qui est procuré par le péché, amène automatiquement une pénalité dont les effets destructeurs durent beaucoup plus longtemps que la courte jouissance du péché. Adam et Ève ont vu un de leurs enfants, Abel, assassiné par Caïn. Ils ont vu ensuite la terre qui se remplissait de violence, et au lieu d'entrer dans la famille divine, ils sont morts sans comprendre la vie éternelle que Dieu leur offrait par l'arbre de la vie. Cette vie éternelle que Dieu donnera, accordera tel un don gratuit en Jésus-Christ à tous ceux qui se repentiront sincèrement, profondément de leurs transgressions, adoptant alors, et sans le moindre compromis, le mode de vie dicté à l'homme par la loi divine. La Bible ne cesse d'enseigner que ceux qui persistent dans la voie du péché sont, spirituellement parlant, déjà morts. C'est la conséquence du péché. Ils vivent encore physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Un corps mort est sans sentiment, sans réaction. Il est aussi insensible qu'une porte dans laquelle on enfonce un clou. Ceux qui endommagent leur esprit en transgressant la loi divine d'une manière continue, en vivant sans cesse dans le péché, ne vivent pas spirituellement. Plus rien n'est satisfait, la vie ne leur apporte plus grand-chose de réel, de valable. Il faut savoir que personne, même pas Dieu, n'a besoin de savoir que vous transgressez la loi pour que vous vous trouviez sous le salaire du péché. La loi divine n'est pas comme les lois humaines. Pour être puni par les hommes, il faut être pris en flagrant délit et être condamné. Les lois divines, elles, attirent toujours les bénédictions sur ceux qui les observent, mais elles attirent toujours les malédictions sur ceux qui les transgressent. Dieu lui-même suit un mode de vie qui conduit vers le bonheur, la joie, la paix. Il souhaite partager cette qualité de vie avec tous les êtres humains, non pas seulement dans le temps présent, mais pour toute l'éternité. Quelle sorte de mode de vie tient-il en réserve pour ceux qui se soumettent à lui? La réponse nous est donnée par le roi David. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Nous lisons que Dieu vit dans d'abondantes joies. Voilà pourquoi lui, qui est éternel, offre à ceux qui acceptent de faire sa volonté une vie éternelle dans la joie, le bonheur et la paix. Mais avant de leur accorder cette vie éternelle, il veut que chaque être humain lui prouve qu'il est capable de vivre selon le mode de vie fixé par toutes ses lois, ce qui finit par produire des résultats positifs qui seront éternels. Si l'homme refuse de mettre en pratique ce mode de vie, s'il persiste à vivre dans le malheur, dans la malédiction, dans la souffrance, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tout son entourage, alors un Dieu bon et miséricordieux n'aura d'autre alternative que de détruire à jamais ce méchant invétéré pour le tirer à jamais de sa misère dans laquelle il se complaît. Dieu ne veut surtout pas priver l'homme des joies de l'existence. Il veut le protéger de ce qui peut le détruire physiquement et spirituellement. La loi divine n'est nullement la raison pour laquelle le péché est mauvais. La loi n'est pas mauvaise parce que Dieu a décidé qu'il devrait y avoir un salaire, une pénalité pour certaines actions et une récompense pour d'autres. La loi est ce qui définit le péché, elle fixe d'une manière codifiée ce qui est mauvais pour l'humanité. Le prophète Ézéchiel a écrit « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. » Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? L'apôtre Paul a écrit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Devons-nous en conclure que Dieu veut infliger une punition ultime, la mort éternelle à tous? Pourrait-il prendre plaisir à constater que le monde ne jouit pas d'une vie parfaite qui devrait le rendre heureux? Non, il voudrait tirer le monde hors de sa misère. Voilà pourquoi Ézéchiel ajoute « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, chacun selon votre façon personnelle de vivre. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, de celui qui est en train de mourir spirituellement à cause de ses transgressions, de ses profanations, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc, changez votre façon de vivre qui est en opposition avec mes lois, et vous vivrez. La grande majorité des hommes, y compris la grande majorité de ceux qui affirment être chrétiens, sont coupés de Dieu, de la source réelle de vie. Le prophète Ésaïe a écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, vos iniquités, votre injustice, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie, dans leur façon de vivre, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. Prenez-vous des sentiers détournés devant les commandements et la loi divine? Êtes-vous certain de les observer tels qu'ils sont repris dans la parole de Dieu, sans rien modifier, sans rien ajouter ou retrancher? Je pense que vous en êtes tous persuadés et cependant. Lisez-les, relisez-les, examinez votre façon de vivre et vous serez peut-être étonné. Est-il possible que vous puissiez être semblable à un homme mort spirituellement, détruisant chaque jour sa possibilité de vivre heureux en transgressant tant soit peu la loi divine et en emmenant automatiquement sur sa tête et sur celle de sa famille le salaire, la malédiction résultant du péché? Si c'est le cas, rien n'est perdu. Tournez-vous vers Dieu et demandez-lui d'effacer non pas la loi, mais d'effacer vos transgressions et de vous remettre dans le sentier de la vérité. David a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il est toujours possible d'obtenir le pardon des fautes commises, à condition de s'en repentir profondément et de changer de mode de vie. Le péché peut être vaincu avec l'aide de Dieu. Mais encore faut-il le vouloir. N'importe qui peut débuter une vie de joie et de paix qui s'épanouira au fil du temps dans la plénitude de la joie qui est celle que Dieu connaît lui-même. Le Christ a fait plusieurs promesses. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Avant cela, Jésus avait déclaré, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jésus a encore ajouté, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voulez-vous jouir de cette joie et de cette paix qui émane du Dieu vivant? Alors vivez en conformité avec sa parole et vous verrez les bénédictions se répandre sur vous et sur les vôtres.